Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48 FM, il est 13h, ce journal vous est présenté par Louis Noël.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Hier soir, à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, une manifestation s'est déroulée devant le Vatou. Et une page tourne à Chertal, le dernier bâtiment de l'ancien site sidérurgique a été démoli. La montée et les conséquences du technofascisme sous l'ère de Donald Trump étaient le sujet d'une conférence hier soir à Liège. Et on terminera ce journal, comme d'habitude, par une petite page sportive. Une manifestation a eu lieu hier soir dans le cadre de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Les manifestants ont élevé leur voix contre les agissements du gouvernement Arizona et contre les discriminations envers les minorités. Un reportage de Doris Lofgen.
Pour moi, un handicap, c'est quelque chose qui n'est pas traité par la technologie.
Devant la place du Vintou, il pleut et il vente. Malgré le froid, une vingtaine de personnes se sont rassemblées. Benjamin Assel, fragile, hospitalisé plusieurs fois pour schizophrénie, estime que les mesures du gouvernement Arizona renforcent encore davantage la marginalisation des personnes handicapées.
En renvoyant deux à deux les différents allocataires, que ce soit mutuelle, chômage, CPS, etc., en créant à part, en protégeant les personnes handicapées, on ségrègue encore plus qu'il y a déjà ségrégué, donc ça ne fait qu'accentuer le problème en fait finalement.
Parmi les manifestants, quelques étudiants sont venus apporter leur soutien. Lucas Stevens, en première année d'assistance sociale à la ville de Liège, dit vouloir comprendre au maximum la réalité des publics qu'il accompagnera demain.
Le gouvernement Arizona me dégoûte. Systématiquement, ce gouvernement n'a pris que des mesures de casse sociale, en s'en prenant aux travailleurs, en s'en prenant aux pensionnés, et maintenant en s'en prenant aux malades, et aux handicapés, évidemment. Il faudrait qu'on foute la paix aux malades de longue durée, qu'on croie les gens quand ils disent qu'ils sont en burn-out.
D'autres prennent la parole spontanément, sans micro ni interview, comme Julien, employé en maison de repos, qui rappelle que le handicap nous concerne tous, tôt ou tard.
En gros, vous allez tous constater, vos grands-parents, vos grands-parents, vous allez tous finir handicapés. C'est la condition des vieux, vous allez vous pisser dessus, vous allez finir en chaise roulante, vous allez avoir un cadeau, ce sera compliqué pour tout le monde. Donc quand vous serez vieux, 80 ans passés, vous serez tous handicapés d'une façon ou d'une autre. Prenez-en conscience ou alors travaillez dessus dès maintenant. Le handicap, c'est une condition de vie compliquée. Est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on veut le faire? C'est vous qui vous posez les questions et qui répondez vous-même. Merci.
Par contre, la grève du secteur de la chimie prévue ce vendredi a été annulée. Un accord entre les syndicats et la fédération de ce secteur a finalement été trouvé dans la nuit. Des meilleures conditions de travail et un meilleur salaire sont les termes de cet accord. Et Régis, c'est encore une nouvelle page qui se tourne pour la sidérurgie liégeoise. Le dernier bâtiment de l'acierie à Chertal a été détruit hier.
Oui, Louis, l'explosion et la chute de ce dernier bâtiment ont à peine duré 9 secondes. C'est un clap de fin qui lance la dernière étape. Le démantèlement titanesque commencé en mars 2022. 120 000 heures de travail, 300 bâtiments détruits et près de 100 000 tonnes de ferraille déplacées. En un peu plus de 3 ans, la sidérurgie présente depuis 1963 a été effacée du paysage.
Et comme tu l'as dit, c'est un clap de fin, mais cette dernière démolition marque aussi un début.
Oui, un tel site ne va pas rester inoccupé, mais il a tous les atouts pour attirer des entreprises et secteurs très importants pour relancer l'industrie wallonne. Il a une surface supérieure au site d'Audiforêt ou de Caterpillar à Gosselies. Son emplacement est aussi idéal. Le site est déjà relié au chemin de fer, à l'autoroute et situé entre le canal Albert et la Meuse.
Mais les entreprises devront encore patienter avant de s'implanter sur ce site.
Oui, avant d'accueillir de nouvelles entreprises, une étude complète du site va être réalisée. Avec un ancien site industriel, il y a des règles à respecter. On doit avoir une bonne idée du niveau de pollution dans le sol du site avant de pouvoir le mettre sur le marché. Les premières entreprises pourraient arriver dès 2028. En tout cas, c'est le souhait du ministre wallon de l'économie et de l'industrie, Pierre-Yves Jeollet.
Vladimir Poutine veut mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est ce que Donald Trump a annoncé après la rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le président russe ce mardi. Steve Witkoff rencontrera aujourd'hui un négociateur ukrainien pour continuer les négociations et pour trouver un accord de paix. La politique américaine était d'ailleurs au centre d'un débat à Liège hier soir. Au Vatou avait lieu une conférence appelée « Les États-Unis à l'ère du technofascisme ». Mais c'est quoi en fait le technofascisme, Doris ?
Eh bien, le technofascisme ne correspond qu'en partie au fascisme. Pour comprendre ce qu'est donc le technofascisme, il faut tout d'abord revenir sur la notion de fascisme en elle-même. Historiquement, on le situe en Italie et en Allemagne dans les années 30. C'est l'idée en fait d'avoir un parti unique qui est très hiérarchisé avec un chef charismatique qui a forcément les pleins pouvoirs. Ce type d'idéologie, en fait, elle se disait défenseuse de l'ordre et de la nation, mais en écrasant les syndicats, la culture et aussi en usant de violence pour que la population se rallie finalement à ce parti unique. Maintenant, le technofascisme, donc c'est à l'ère des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, c'est un dérivé en fait de ce fascisme. Et donc, c'est le fait de contourner le processus électoral et démocratique au profit d'une élite qui, elle, la maîtrise, donc qui maîtrise la technologie. Jérôme Jamin, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, était un des intervenants de cette conférence et il nous explique vraiment en détail les spécificités de ces deux courants de pensée politique.
Chez les fascistes, la démocratie, finalement, ce sont les faibles qui se sont ligués entre eux pour empêcher les forts de dominer le pays, alors que c'est les forts qui doivent dominer le pays. Et dans le technofascisme, il y a un peu cette idée que ceux qui maîtrisent les codes, ceux qui maîtrisent le numérique, ceux qui maîtrisent les grandes entreprises de la tech, devraient finalement dominer le monde. Et les utilisateurs ne sont finalement des gens qui devraient simplement être des utilisateurs et pas des votants.
Pour temporiser cette montée, un exemple simple quand même, celui de Donald Trump, figure une des figures emblématiques de ce mouvement, qui n'est d'ailleurs pas toujours suivi systématiquement dans ses ordres par son Parlement.
À certains égards, on raconte que la Maison-Blanche et Donald Trump sont dans une dérive fasciste, mais cette dérive fasciste, elle est confrontée à des juges qui cassent des décisions de Donald Trump, qui cassent des ordres exécutifs de Donald Trump.
Le technofascisme n'est donc pas inévitable, il reste dans le privé, dans les mains de multinationales, mais qui n'existe qu'à condition que des États acceptent leur existence. Donc finalement, l'État reste assez puissant.
Le fascisme tout court et le technofascisme doivent quand même faire face à des contre-pouvoirs qui fait que ce n'est pas du tout une fatalité. Maintenant, il faut rester vigilant parce que le fascisme peut surgir par des voies inattendues.
Ce n'est pas parce qu'il y a des tendances fascistes donc que cette montée actuelle est définitive. Nos démocraties ont des outils puissants pour se protéger face à ces dérives.
Et parlons un peu de mobilité maintenant. De nouvelles fermetures nocturnes au tunnel de Couët sont prévues ce mois-ci. La circulation sera coupée dans les deux sens durant 5 nuits pour assurer l'entretien du tunnel. Les déviations habituelles seront mises en place. Et une bonne nouvelle pour les étudiants liégeois, le TEC a reçu les premiers bus biarticulés. Ces bus de 24 mètres de long peuvent accueillir jusqu'à 200 passagers. Ils vont permettre de renforcer la ligne bus Way 2 reliant les Guillemins et le campus du Sartillement. Il faudra tout de même encore attendre, ces bus seront mis en service pour la prochaine rentrée scolaire en septembre 2026. Et pour finir, passons à l'actualité sportive avec Tom Gurd. En football, Tom, les 8e de finale de la Coupe de Belgique se sont poursuivis ce mercredi.
Oui, 4 clubs supplémentaires ont décroché leur ticket pour les quarts. La Gantoise a battu le Cercle de Bruges 1-3. Le club de Bruges s'est lui imposé 1-2 à Oud-Heuvelet-Louvain. L'Union Saint-Gilloise a arraché une victoire 2-1 contre Zultowarem. Et l'Antwerp s'est qualifié contre Saint-Tron au pénalty après avoir fait 3-3 dans le temps réglementaire. Les deux derniers matchs de 8e de finale se disputeront ce soir avec le choc entre Genk et Anderlecht, ainsi qu'un joli Charleroi-Malines.
Et toujours en football, la Belgique accueillera un tournoi international en 2028.
L'Euro féminin U17 se jouera chez nous. La compétition a lieu chaque année et rassemble 8 équipes. Elle débarque ainsi en Belgique pour la première fois de son histoire.
Notre pays a également fait parler sur une autre scène internationale, Tom.
L'Euro de natation aura bien réussi à nos compatriotes. Rose van der Dijk a décroché l'argent sur le 50 mètres papillon. De son côté, Florine Gaspard s'est illustrée en remportant un titre de vice-championne d'Europe sur le 100 mètres brasse.
Merci Tom pour ces précisions et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à toutes et à tous sur 48FM.